Et nous allons ce sujet de Sola Gratia, qui est parmi ces cinq sola que vous avez devant vous. Nous allons traiter ce sujet par un petit préambule, une définition, un petit historique. Rappeler qui est Dieu, l'état de l'homme, le salut par la grâce, l'expiation, sa portée et son efficacité, et la persévérance des saints. Alors les hommes, ils ont toujours pensé qu'il fallait d'une certaine manière payer ou compenser par un moyen ou par un autre les fautes qu'ils avaient commises, soit par des actes de contrition, soit par des pénitences, soit par des souffrances, soit par des bonnes actions susceptibles de faire pencher la balance dans le bon sens, soit en payant ou offrant des dons, ou un don, des rites, voire même un sacrifice pour s'attirer la faveur des dieux ou de Dieu. On trouve cela dans toutes les religions et malheureusement même dans le christianisme. De plus, toute notre société fonctionne sur la base du mérite et de la récompense. Cela commence par les notes à l'école, par la réussite des examens, mais se poursuit par les qualifications, les compétences professionnelles pour obtenir un poste. Est-ce que c'est la même chose avec Dieu ? Martin Luther était un homme tourmenté. Il était à la fois attiré par des multiples tendances vers le mal et tenté par toutes sortes d'ascèses, messes, confessions, jeûnes, mortifications, de rechercher la promesse, voire l'assurance de son salut. Certes, son voyage à Rome lui a permis de voir les abus ecclésiastiques, mais c'est à la lecture et à l'étude de la Bible et des épîtres de Paul en particulier. Ce sont ces épîtres qui lui ont permis de comprendre le salut par la grâce, par la foi. Définition. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà se trouve exprimée la pure bonté de Dieu. Dieu qui aime le pécheur, Dieu qui désire non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. Dans le contexte biblique, la grâce désigne alors la faveur imméritée de Dieu à l'égard de l'homme déchu, par laquelle il pourvoit en Jésus-Christ à sa rédemption, car depuis toute l'éternité, il est déterminé d'accorder cette faveur à tous ceux qui croiraient en Christ, Sauveur et Seigneur. C'est aussi par grâce que le croyant est rendu capable de persévérer dans la vie chrétienne. Pour nous limiter à une définition simple, la grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde gratuitement aux pécheurs selon sa libre et souveraine volonté. Mais c'est vrai que de vouloir définir la grâce, c'est tellement immense que c'est un peu difficile de traiter ce sujet en quelques mots. On va passer un petit historique. Augustin d'Hippone, Thomas d'Aquin, Martin Luther, Jean Calvin. Mais il ne faut pas oublier que les premiers à avoir parlé de la grâce, c'est les apôtres, et on le trouve dans les épîtres, dans les actes, et aussi dans les évangiles. Et c'est de là que sont tirées toutes ces certitudes que nous avons par rapport à la grâce de Dieu. Augustin d'Hippone, il a vécu de 354 à 430. C'était un théologien chrétien romain de la classe aisée qui avait des origines berbères et puniques, soit de la région de Carthage. Donc c'est intéressant par rapport à tous ces pays d'Afrique du Nord de leur expliquer que Saint Augustin, et beaucoup le savent d'ailleurs, Saint Augustin était un berbère. Et je vous donne une partie de ses confessions, où le chapitre 3, « Tout procède de la grâce de Dieu. Quant à ces paroles que vous prononçâtes au premier instant de la création, que la lumière soit, je crois, Seigneur, que je puis avec raison les entendre de la créature spirituelle qui, dès lors, avait une sorte de vie capable de recevoir votre lumière divine, votre divine lumière. Mais de même qu'elle n'avait pu mériter cette vie qui la rendait capable d'être éclairée, de même, depuis qu'elle avait l'être, elle n'avait pas non plus mérité de recevoir cette lumière. Imparfaite comme elle l'était, donc la créature, elle ne pouvait plaire. Il fallait pour cela qu'elle devînt lumière, non par nature, mais à force de contempler celui qui l'éclairait et de s'attacher à lui. Et de cette manière, c'est à la grâce seule qu'elle est redevable, et de son existence primitive, quelle que fût, et ensuite cette existence jointe au bonheur, à ce bonheur qu'elle trouve en se tournant par le plus malheureux des changements vers celui qui est incapable de ne jamais changer, c'est-à-dire vous, vers vous, ô mon Dieu, qui possédez véritablement l'être, et en qui ces deux choses, vivre et vivre heureux, sont absolument inséparables, parce que vous êtes à vous-même votre propre félicité. Voilà ce qu'a écrit Augustin d'Hippone. Il y a aussi Thomas d'Aquin, qui a vécu de 1224 à 1274, qui est né au château de Roccasecca, près d'Aquino, au sud de l'Italie. C'est pour ça qu'il s'appelle Thomas d'Aquin. C'était un religieux de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique. Maintenant, il a écrit « Maintenant, c'est par la grâce seule que quelqu'un est reçu dans des demeures éternelles. » Et puis Martin Luther, dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui a vécu de 1483 à 1546, qui était de Eisleben en Thuringe, c'est dans la Saxe actuelle, au centre de l'Allemagne. C'était un frère augustin, donc de l'ordre, qui était moine augustinien, théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église, dont les idées exercèrent une grande influence sur la réforme protestante qui changea le cours de la civilisation occidentale. Alors j'ai mis ce verset parce que c'est ce verset qui lui a fait comprendre cette grâce de Dieu, et en particulier la fin, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit « Or, le juste vivra de foi ». C'est sa compréhension nouvelle de l'épître de Paul aux Romains qui lui procure ce soulagement. Il écrira « Alors, je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, et que la signification était celle-ci. Par l'Évangile nous est révélée la justice de Dieu, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré, les portes grandes ouvertes dans le paradis même. À l'instant même, l'Écriture m'apparut sous un autre visage. Il découvre alors que seule la foi sauve, que seule la confiance placée en Jésus qui nous aime, malgré notre péché, libère vraiment. Luther en arrive à se dire que l'homme doit accepter son état de pécheur et qu'il est fatalement imparfait devant Dieu, ce qui n'empêche pas la pénitence à ses yeux. En revanche, vouloir résoudre le problème du péché par des indulgences susceptibles de se substituer en toute ou en partie à cette pénitence, le plus souvent monnayée, est pour lui une pratique incompatible avec la piété, ainsi qu'un danger d'éluder les vrais problèmes. Alors j'ai recherché sur Internet « Catéchisme de l'Église romaine » qu'on trouve sur Internet. Hein. On peut lire au chapitre 10, c'est à l'article 1471, sur les indulgences. C'est actuel, donc c'est ce qui est actuellement maintenant. « La doctrine et la pratique des indulgences dans l'Église sont étroitement liées aux effets du sacrement de pénitence. » Qu'est-ce que l'indulgence ? L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Et c'est Paul VI qui a fait ça, qui a écrit ça. Alors, c'est pour dire que ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement. Jean Calvin. Il est né le 10 juillet 1509 à Noyon, en Picardie. Il est mort le 27 mai 1564 à Genève. C'est un théologien important, réformateur et pasteur emblématique de la réforme protestante du XVIe siècle, notamment pour son apport à la doctrine dite du calvinisme. Il a écrit dans son Institution de la religion chrétienne « Nous avons maintenant le point que nous débattons principalement approuvé par la bouche de saint Augustin, donc il se réfère à saint Augustin, c'est que la grâce n'est point seulement présentée de Dieu pour être rejetée ou acceptée selon qu'il semble bon à un chacun, mais c'est icelle grâce seule, laquelle induit nos cœurs à suivre son mouvement et y produit tant le choix que la volonté, tellement que toutes bonnes œuvres qui s'en suivent après sont fruits d'icelle. Et ce n'est point reçu d'homme vivant, sinon d'autant qu'elle a formé son cœur en obéissance. À cette cause-là même, docteur dit en un autre lieu qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui fasse toute bonne œuvre en nous. Que la grâce de Dieu qui fasse toute bonne œuvre en nous. Qui est Dieu? Dieu est le Créateur. Cette simple affirmation de la Bible nous donne un aperçu de sa grandeur, puisque l'univers qui est sa création ne nous est connu que très partiellement. Alors lui, pouvons-nous le connaître pleinement? Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre. Dieu est saint. Alors Dieu est saint. La sainteté de Dieu est sa qualité essentielle, fondamentale, sa pureté absolue, immaculée, manifeste sa gloire rayonnante, éternelle. Dieu est juste. Il est juste, équitable, impartial dans son traitement de tous les peuples, sans contradiction entre sa nature et ses actes, donc cohérent. Il tient parole et accomplit ce qu'il a promis. Dieu est amour. Alors c'est pour ça que j'ai mis ce verset d'Ésaïe tout à l'heure, enfin je l'ai enlevé maintenant, mais « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé. » Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face. Et de 2, ils se couvraient les pieds. Et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait. Et la maison était remplie de fumée. Et je dis « Malheur à moi, car je suis perdu. » Car moi, je suis un homme aux lèvres impures et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc on voit un peu plus en avant dans l'Exode, au début de la Bible, que Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc ces versets nous montrent bien quelle est la grandeur de Dieu et le fait que nous les hommes, on ne peut pas tenir devant Dieu, on ne peut même pas le voir réellement. Alors l'état de l'homme, il y a plusieurs versets que j'ai mis ici, qui nous parle de l'état de l'homme. Mais comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu, par exemple, dans Job 9. Dans Ésaïe 64, « Et tous nous sommes devenus comme une chose impure, et toutes nos justices comme un vêtement souillé. Et nous sommes tous fanés comme une feuille, et nos iniquités comme le vent nous emportent. » Le cœur, ça c'est de Ésaïe, et dans Jérémie 17, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et il n'y a point de juste, pas même un seul, dans Romains 3. L'homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais il pêche parce qu'il est pécheur. Ça, c'est important de se rendre compte. L'homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais il pêche parce qu'il est pécheur. Le péché est héréditaire depuis la chute d'Adam. On voit ça dans le verset en-dessus, Romains 5, 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. » Donc le péché est héréditaire depuis la chute d'Adam, même pour ceux qui naissent dans des familles chrétiennes. La foi, elle, n'est pas héréditaire. Elle est personnelle. C'est une démarche personnelle avec Dieu. Le péché a amené une séparation entre Dieu et l'homme. L'homme est mort spirituellement. Chaque homme est pécheur et donc coupable ou injuste devant Dieu. Le Dieu juste et saint qui a les yeux trop purs pour voir le mal. Est-ce que je me vois réellement comme je suis? une montagne de péchés, un amas d'indignité. Alors Job se posait cette question, mais qu'est-ce que l'homme que tu fasses grand cas de lui et que ton cœur s'occupe de lui ? Pour bien montrer que c'était vraiment une grâce de Dieu. Le salut par la grâce. Donc on va voir plusieurs points, la nécessité de la grâce, la gratuité de la grâce, la causalité de la grâce, pourquoi la grâce et la durée de la grâce. Donc le salut par grâce. La notion de la grâce est transversale dans toute la Bible, du début à la fin. Dans l'Ancien Testament se trouve déjà exprimée la pure bonté de Dieu qui aime le pécheur et désire non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. J'ai mis quelques versets là-dessus. Par exemple, Exode 34, au milieu de ce que j'ai mis, « Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, grand en bonté, gardant la bonté, grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui est coupable pour innocent. » La nécessité de la grâce. En justice, la grâce est remise de tout ou partie, et la remise de tout ou partie de la peine d'un condamné ou commutation de cette peine en une peine moins forte. Pour être sauvé, il faut être gracié pour ne pas être puni pour nos péchés. La grâce est nécessaire. Dans la justice humaine, personne n'a le droit ni le pouvoir de déclarer juste un coupable. L'avocat tente simplement de démontrer qu'il est juste, celui qui est soumis à la justice, et que les accusations portées à son encontre ne sont pas recevables et qu'il n'en est pas responsable. Les justes n'ont pas besoin d'être justifiés, seuls les coupables ont besoin d'être justifiés. Donc on voit dans Matthieu 19, 26, les disciples qui posent la question à Jésus, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit, on voit ça dans Matthieu 19, donc, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et aussi ce verset aura, « Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui justifie l'impie, c'est Dieu qui seul peut déclarer et rendre juste un pécheur. Jésus n'est pas venu chercher des justes. La grâce n'est que pour les coupables. Le pardon n'est que pour les pécheurs. L'homme n'est jamais si proche de la grâce que lorsqu'il commence à comprendre qu'il ne peut rien faire, a écrit Spurgeon. Le Dieu souverain dont l'amour est infini entreprend l'œuvre de déclarer juste celui qui est pécheur, de le regarder, de le traiter comme étant parfaitement juste, de faire de lui un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. C'est un miracle qui n'appartient qu'à Dieu. Et est-ce que cette grâce absolument nécessaire pour mon salut ne suscite pas mon admiration ? Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen ou par la foi, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La gratuité de la grâce. Augustin d'Hippone s'est opposé à un moine nommé Pélage qui enseignait que l'homme peut parvenir à la sainteté par sa propre justice et nier la doctrine du péché originel. Augustin, lui, enseignait sur la base des épîtres de Paul que la chute d'Adam a entraîné tous les hommes dans le péché, et qu'ainsi la grâce de Dieu est absolument nécessaire au salut de l'homme. Dieu ne vend pas sa grâce, il ne l'échange pas contre des œuvres de justice, de pénitence, de bienfaisance, ou contre des indulgences, mais il la donne à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en son Fils. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Or, si c'est par la grâce Ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisqu'autrement la grâce n'est plus la grâce. Romains 11. En tous les cas, une grâce qui n'est pas gratuite n'est plus une grâce. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence. Le salut par la foi est compatible avec un salut par grâce. Par la foi, nous nous reposons en Christ et non en nous-mêmes. Nous nous confions dans la grâce de Dieu et non dans notre justice. La foi, bien qu'active, n'est pas contributive, mais réceptive. La foi seule et la grâce seule sont intimement liées. La causalité de la grâce, ou pourquoi la grâce? Alors on peut se poser des questions. Dieu nous a-t-il fait grâce parce que nous avons cru? Ou avons-nous cru parce que Dieu nous a fait grâce? On est en train de toucher du doigt l'élection. La foi est-elle la cause de la grâce ou la grâce est-elle la cause de la foi? Alors, parce qu'à vous, il était gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir en lui. Donc, il était gratuitement donné de croire en lui. Donc c'est un don. N'ayons pas honte du témoignage de notre Seigneur ni de moi, son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus, avant les temps des siècles, mais qui était manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité de l'Évangile. Pourquoi la grâce? Parce que Dieu la donne. Croire en Christ nous est accordé par la grâce de Dieu dès les temps éternels. On voit « avant les temps des siècles » dans ce verset. Alors, on va parler un tout petit peu de l'élection, sans exagérer, mais il y a plusieurs versets qui nous parlent, en particulier celui de Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Éphésiens 1, 3, 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter par lui selon le bon plaisir de sa volonté. Et peut-être encore celui de Romains 8, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Spurgeon a écrit « Je crois dans la doctrine de l'élection parce que je suis certain que si Dieu ne m'avait pas choisi, je ne l'aurais pas choisi moi-même. Et je suis sûr qu'il m'avait choisi avant ma naissance, sinon il ne m'aurait jamais choisi après. Et il devait m'avoir choisi pour des raisons que j'ignore, parce que je n'arrive pas à comprendre moi-même pourquoi il a jeté son regard sur moi avec cet amour particulier. La grâce est donc nécessaire, mais elle n'est pas due. » Alors il y a un exemple qu'on nous avait donné quand j'étais au camp, plus jeune, ça fait un moment, et qui nous a été rappelé par Gilles Despins il n'y a pas longtemps, dont lui a parlé Jean-Paul Bernet. C'est cet exemple de la porte, où il est marqué d'un côté, le côté qu'on voit avant de venir à Christ, appelé. Je suis appelé. Et puis quand on passe la porte, on se retourne et on voit sur la porte élu. Donc on est élu. Et je pense qu'il faut faire Attention de ne pas aller trop loin dans ces réflexions là-dessus, parce que, enfin, vous verrez tout à l'heure, au sujet qu'on va traiter sur la portée et l'efficacité de l'expiation, si on va trop loin, ça peut porter à une confusion pour certains versets. Donc la grâce est nécessaire, mais elle n'est pas due. Et on peut se poser la question, mais si on est élu, si tout est fait d'avance, si les dés sont pipés, à quoi ça sert d'annoncer l'Évangile ? Alors je lirai ce verset de 1 Timothée 2:6. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, car Dieu est un, et médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus qui s'est donné lui-même pour nous tous. Le libre arbitre signifie... Voilà, le libre arbitre, ça c'est la doctrine que déjà Pélage avait commencé à défendre du temps d'Augustin. Et puis ensuite, après Calvin, il y a un dénommé Arminius qui a beaucoup travaillé à cette doctrine. Le libre arbitre signifie que l'arbitre de l'homme n'est pas, c'est-à-dire sa capacité à faire le choix spirituel du souverain bien, est libre, n'étant soumis ni à Dieu ni au diable, mais à l'homme seul. D'autre part, cette doctrine aussi prêche qu'on peut perdre son salut, parce qu'on n'est pas élu, c'est en contradiction avec l'élection, parce qu'on peut avoir des moments, entre guillemets, de grâce et d'autres qui ne sont pas de grâce, et on peut, pour eux, perdre son salut. Alors, tous les chrétiens reconnaissent que l'homme est sous la puissance du péché, malheureusement, ils ne s'entendent pas quant au degré d'asservissement de la volonté sous le péché. Pour Augustin, déjà à l'époque, hein, où il polémiquait avec Pélage, la grâce de Dieu est le seul espoir de restauration pour l'homme. Alors, je n'irai pas plus loin dans cette polémique, parce que ce n'est pas forcément très édifiant. La durée de la grâce. Il y a des croyants qui pensent qu'à leur conversion, eh bien, c'est seulement les péchés passés qui sont pardonnés. Ils tremblent et n'ont aucune certitude quant à leurs péchés futurs, et risque la condamnation à tout moment s'il meurt avant d'avoir eu le temps de se repentir. Christ a racheté nos transgressions avant que nous ne les commettions. Il est mort pour nos péchés que nous avons commis avant de le connaître et après notre conversion. Nous demandons chaque jour pardon pour nos péchés, pour rester en communion avec lui sans ombrage, mais nous sommes définitivement pardonnés. Je vous écris enfin, c'est ces versets que je mets en référence, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Dans Hébreux 9, mais Christ étant venu souverain sacrificateur des biens à venir par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc la durée de la grâce est éternelle. Le salut est permanent et il ne se perd pas. Mes brebis, écoute ma voix. Ça c'est le verset de Jean 10 que je n'ai pas mis. Et moi, je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc ça, c'est une assurance que le salut est acquis une fois pour toutes. Il est permanent et il ne se perd pas. l'expiation, sa portée et son efficacité. Deux versets, un dans Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime, donc Jésus, pour nos péchés. Lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Et c'est là où la doctrine de l'élection pour certains va un peu loin. Tout le monde la panne d'ailleurs, mais la doctrine de l'élection va un petit peu loin parce que ils prétendent que Jésus est mort que pour les gens qui sont élus. Car, vers 2 Corinthiens 5, 14 à 15, car l'amour du Christ nous étreint en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, donc tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Jésus-Christ est une victime expiatoire si parfaite que la portée et l'efficacité de son œuvre s'étend non seulement au péché des chrétiens eux-mêmes, mais aussi à ceux du monde entier. Jean affirme clairement le point de vue que Christ est mort pour tous. Cela ne veut évidemment pas dire que tous seront sauvés, mais plutôt que tous ceux qui entendent l'Évangile peuvent être sauvés s'ils le désirent. Il rappelle la magnifique étendue du sacrifice expiatoire de Christ. Christ est mort pour tous, et pas seulement pour les élus. La persévérance des saints. Je vais vous lire un verset de 1 Pierre 1, verset 13 à 20. « C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois pendant votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé et saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saint, car moi je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui, sans exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. » Et ce verset aussi d'un Corinthiens 1, 4 à 8, « Je rends toujours grâce à mon Dieu pour vous à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. » De ce qu'en toute chose vous avez été enrichi en lui, en toute parole et toute connaissance, selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés, à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Le don divin de la persévérance ne peut être reçu que par ceux qui ont accepté son don de grâce. Et c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la foi, la fortifie et l'entretient. C'est une œuvre intime que Dieu veut opérer dans ceux qui se confient en lui. C'est le Saint-Esprit qui nous édifie en Christ et qui nous fait demeurer en lui pour que nous soyons enracinés et fondés. L'Église a besoin de chrétiens affermis. Dieu nous affermira jusqu'à la fin. L'œuvre de la grâce dans une personne n'est pas une réforme superficielle. La vie qui est implantée au moment de la nouvelle naissance provient d'une semence vivante et incorruptible qui vit et subsiste éternellement. Les promesses de Dieu n'ont pas un caractère relatif. Elles comprennent dans leur réalisation l'affermissement progressif du croyant tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la gloire finale. C'est Dieu qui veut que nous soyons gardés irréprochables. La fidélité de Dieu est le fondement de notre persévérance. Et nous pouvons donc poursuivre notre marche en pleine confiance. Et voilà, j'ai terminé. C'est vrai que cette grâce, quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie, que cette grâce nous est promise, que cette grâce nous donne de pouvoir nous appuyer sur Dieu, et que Dieu est fidèle, et que cette fidélité, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer, et dans nos assemblées, dans les églises, eh bien nous pouvons nous encourager, parce que la vie sur la terre n'est pas toujours facile, et nous avons besoin de cette confiance, nous avons besoin de cette fidélité de Dieu, et nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur ses promesses. Alors je vous remercie pour votre attention. Et puis, au niveau de la bibliographie, donc il y a la revue Promesses, sur laquelle il y a pas mal de choses. Tout par grâce de Charles Spurgeon, qui est un excellent livre, et Solas de Pascal Denot, qui est un petit peu trop calviniste à mon goût.